France Culture.
4, 3, 2, 1. We have ignition and we have liftoff. We have liftoff of the Titan Centaur carrying the first of two Voyager spacecraft to extend man's senses farther into the solar system than ever before. Reports coming back indicate those twin large solid motors are functioning perfectly, producing 1.2 million pounds.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Deux premiers romans au programme de votre Book Club, hanté par la fin de l'humanité et la sauvegarde de sa mémoire. Deux romans de science-fiction où l'intelligence artificielle est supposée pouvoir encoder l'intégralité des archives numériques mondiales, à moins que la sauvegarde des vécus humains et du vivant en général ne passe par la voix et l'écriture d'une petite fille de CM2 embarquée avec sa classe dans un abri anti-atomique alors que le monde connaît tout autour sa guerre la plus meurtrière. Léa Quénin et Camille Soulet publient leur premier texte et il n'est pas anodin de constater que leur narration, travaillée par une forme de compte à rebours, sauve les femmes et les enfants d'abord, comme on dit. Hackeuse d'élite, paléobotaniste, orbiteuse, journaliste, mais aussi apocalypse nucléaire et jeune douée en mathématiques, on a rendez-vous avec tout ça dans la prochaine heure. On se quittera en musique pour le grand jeu des pages musicales. Accrochez-vous, on décolle vers la mémoire. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Léa Quénin.
Bonjour.
Memory Palace, apparu aux éditions Rivage. Bienvenue dans le Book Club. Et bonjour Camille Soulaine.
Bonjour.
106 jours, les carnets d'Alice Azevedo, apparu aux éditions Tristram. Ici, on commence par ce qu'on appelle un questionnaire lecture. Alors, on fait le portrait de nos invités en tant qu'ils ont été des lecteurs et des lectrices et sont encore des lecteurs et des lectrices. Il se trouve que la question de savoir ce qu'on lit dans vos romans, peut-être ce qu'on gardera aussi en mémoire de la littérature, ce qu'on peut trouver dans des médiathèques, est quelque chose qui apparaît. Est-ce que, Léa Quénin, vous pourriez nous dire un petit mot de, je ne sais pas, le début de votre vie de lectrice ?
J'ai assez peu de souvenirs du tout début de ma vie de lectrice. En fait, je me souviens en revanche d'une sensation d'arriver à lire, mais pas forcément à l'appui d'un livre. Je me souviens être à l'arrière d'une voiture et d'arriver à déchiffrer sur un camion ce qui était écrit. Et je me souviens surtout du sentiment d'indépendance et d'autonomie que ça me procurait sur le moment. Et bon, voilà, c'était pas une entrée en littérature à ce moment-là.
Mais c'est très souvent que cette puissante expérience de déchiffrage revient quand on parle de lecture.
Ouais. Oui, et je crois que ce sentiment, voilà, comme je disais, d'indépendance et d'autonomie est resté encore aujourd'hui.
Dans votre rapport à la lecture?
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous recherchez, que vous ressentez, l'idée d'un lieu véritablement à soi, véritablement libre dans la lecture ?
Oui, exactement. Oui, oui. Et ça a été comme ça depuis l'enfance, je pense.
Est-ce qu'il y a eu des moments de lecture marquantes pour vous, des œuvres que vous voudriez signaler ?
Il y en a eu pas mal. Il y en a eu pas mal. J'ai commencé quand j'étais adolescente, c'était plutôt des polars. Je lisais beaucoup de... Voilà, chez moi, il y avait beaucoup de livres de Patricia Cornwell, Patricia McDonald ou Patricia Highsmith.
Beaucoup de Patricia.
Voilà. ça a été... je les ai tous dévorés. Il y avait une héroïne de Patricia Cornwell qui était Kay Scarpetta, qui était médecin légiste. Et j'ai eu envie de devenir médecin légiste pendant très longtemps. Et ensuite... au lycée, je crois que ma première vraie claque de lecture, c'était Frankenstein de Marie Chalet. Mmh.
Qu'est-ce qui vous a impressionné dans ce texte-là ?
Le souvenir que j'en ai, c'était... je l'ai lu l'été, il faisait très chaud, il y avait un grand soleil, et j'étais aspirée dans les ténèbres, quoi. C'était un peu le chaud-froid.
Ah oui, c'est vrai, parce que le souvenir que j'en ai, c'est plutôt un château très froid,
tout
l'hiver, très pluvieux, la tempête.
Très sombre, très dark. Très... Et c'est ça, c'est ça qui m'a marqué, c'est ça qui est resté aujourd'hui, changer d'univers, être dans un univers parallèle.
De contraste absolu avec l'environnement extérieur.
Ouais.
Il est beaucoup question de la mémoire dans les deux romans qui sont au programme de notre book club aujourd'hui. Est-ce que vous vous souvenez facilement des livres que vous lisez ? Est-ce qu'ils vous restent en mémoire ? De quelle manière ils vous restent en mémoire ?
Je crois que pas tellement. Enfin, oui, évidemment, il y en a plein qui, voilà, quand c'est des grandes claques comme celle-ci, ça reste, ça marque. Il y en a beaucoup qui sont passés et qui ont été un petit peu effacés par mon disque dur. mais qui sont, je pense, quand même là en fond. Mais ce qui me reste, c'est, bah, par exemple, enfin là, j'évoquais Frankenstein. Ce qui me reste, c'est marrant, c'est plus des sensations. C'est assez variable. C'est assez variable. Et puis plus, enfin, les plus récents, bien sûr, sont très frais et beaucoup plus marquants. Ceux que j'ai lus pendant l'écriture de Memory Palace sont encore très présents dans ma mémoire.
Peut-être on y viendra à la bibliothèque qui a pu se constituer autour de ce laboratoire d'écriture. Est-ce que vous vous souvenez des livres que vous avez lus, Camille Soulaine ? Est-ce que vous avez une bonne mémoire des livres que vous avez lus ?
Ah, je ne sais pas, c'est difficile à dire. En tout cas, il y en a qui m'ont beaucoup marqué. Et j'ai été un très grand lecteur depuis mon tout jeune âge, je crois. Je dévorais n'importe quoi, des bandes dessinées surtout.
Quoi comme bande dessinée ?
Des bandes dessinées amusantes surtout.
Le nom vous échappe, mais c'est pas grave. Il y avait des BD chez vous ?
Non, il n'y en avait pas.
Non.
Mes parents m'abonnaient à des BD. Et donc j'en lisais beaucoup. Et puis on les échangeait entre... Et puis je lisais ce qu'il y avait dans la bibliothèque de l'école primaire dans laquelle j'étais élève, et du lycée ensuite. Mm-hmm. Et je lisais vraiment n'importe quoi. Alors, La Comtesse de Ségur, Jules Verne, Dickens. J'ai fait de l'anglais assez tôt, en fait. Et donc...
Pour une raison précise ou ça s'est trouvé comme
beaucoup,
ça ?
J'aimais beaucoup l'anglais. Et bon, et puis... voilà. Et j'ai lu, avant de faire des études d'anglais, j'ai lu des romans en anglais. Et ça... Ça a contribué des romans d'Agatha Christie, en fait, surtout. Et je lisais en anglais, je tenais à les lire en anglais.
Et alors, qu'est-ce qui vous plaisait dans ces romans d'Agatha Christie ?
Eh bien, le fait de trouver les indices, le fait qu'il y ait eu des indices, c'est qu'il fallait jongler entre ces indices et essayer de... Mais souvent, c'était pas celui... le coupable, c'était pas celui auquel on avait pensé. Voilà.
Donc un aspect assez joueur avec la lecture. Et vous êtes resté un grand lecteur ?
De romans policiers.
Ou de romans tout court ?
Oui, de romans, oui. Je lis beaucoup. Actuellement, je lis les grands classiques de la littérature anglo-saxonne.
C'est-à-dire ?
Et je relis Hemingway avec beaucoup de passion.
Dans ce roman que vous avez écrit, dont on parlera tout à l'heure, Camille Soulaine, il est question d'une forme de communauté d'enfants, choisis au hasard, ils sont 21, pour être sauvés d'un cataclysme, d'une guerre cruellement violente qui frappe leur environnement. Et donc il y a quelque chose de... Oui, là aussi, d'une forme d'indépendance, quoi. Il y a une communauté d'enfants. Est-ce que vous vous souvenez que vous partagez vos lectures, vos impressions de lecture avec des camarades de votre âge ? Est-ce que ça faisait partie de ce que vous discutiez ensemble ?
Oui, surtout à partir de la sixième. Quand j'étais, c'était dans un lycée à l'époque, et je discutais beaucoup avec mes camarades, et on échangeait des livres, et on était vraiment passionnés.
Et vous discutiez quoi à l'époque ? De quel livre que vous lisiez ?
Comme livre ?
Ouais.
Des romans policiers, et puis je vous dis, Jules Verne, La Comtesse de Ségur.
C'était des sujets, quoi, de conversation.
Oui.
Dans la cour.
Oui, et les BD.
On va parler aussi beaucoup de mémoire et de la transmission de cette mémoire. Il y a un motif comme ça, de forme de capsule temporelle qu'on serait en mesure de projeter peut-être 50 ans, 100 ans et allons-y, je sais pas, 1000 ans ou 1 million d'années plus tard, dans le roman de Léa Quenin. Si vous deviez mettre, Camille Soulaine, comme ça, 1, 2, 3, 4 romans à destination, peut-être même pas des générations futures, mais des espèces qui nous survivraient, qu'est-ce que vous mettriez de précieux selon vous ?
Bien, je mettrais beaucoup de poésie, Victor Hugo, et puis les romans de Victor Hugo aussi. Et
c'est déjà pas mal.
Oui, ça fait vraiment beaucoup. Et puis les grands auteurs. La littérature allemande et russe, je connais pas beaucoup, mais j'ai pas mal lu dans la littérature anglophone et francophone. Donc bon, il y a beaucoup de choses là.
Mais vous pensez immédiatement à Victor Hugo pour une raison en particulier ? Quand je vous dis quelque chose qu'on pourrait projeter vers un futur, voire un futur extrêmement lointain, comme étant...
Non, c'est pas Victor Hugo.
Non, pas Victor Hugo.
Non.
C'est pas ça que vous
trouvez. Enfin, je veux dire, j'espère que les générations futures liront Victor Hugo.
Ah voilà, donc c'est ça que je veux dire. Donc c'est bien ça. Très bien. Même question pour vous, Léa Quenin, si vous deviez mettre dans une capsule temporelle 2 ou 3 bouquins pour les vivants ou les trucs qui seront là dans 1 million d'années, on va dire.
Grande question. Je crois que je rejoins assez Camille Soulaine sur la poésie. Il pourrait y avoir Dickinson, il pourrait y avoir Sappho.
Que vous citez, ouais.
Tout à fait, oui. Parce que il y a ce rapport au temps aussi dans Sappho. Aujourd'hui, on a que des fragments de Sappho.
Est-ce que vous voulez dire un tout petit mot sur cette poétesse?
Oui. Bah déjà, c'est la première à avoir écrit sur l'amour entre femmes, et c'est très beau. Et donc, on a aujourd'hui très peu de poésie complète de Sappho, seulement quelques fragments assez courts et qui ont traversé le temps, qui ont traversé les époques, qui sont encore vivants aujourd'hui parce que il y a beaucoup de traducteurs, de traductrices qui travaillent encore sur les textes. Il y a des textes qui ont plus de 100 traductions différentes. Donc c'est de la matière très, très vivante encore.
Donc vous mettriez Sappho dans la capsule temporelle, peut-être.
Oui, c'est pas mal.
Et Dickinson.
Allez.
Quand est-ce que vous découvrez la poésie d'Emily Dickinson ?
Je la découvre, je suis déjà adulte, je pense que je la découvre vers 25 ans. Quelque chose comme ça, oui. Et c'est super, elle me paraît très claire.
Ah, je peux vous le dire, ouais. J'ai acheté avant-hier une très belle anthologie, ouais.
Ouais.
Et du coup, j'ai lu plein de poèmes d'Emily Dickinson, donc ça me fait plaisir que vous la citiez.
Ouais. Mais il y a quelque chose
très grande clarté, très grande immédiateté.
Exactement. Et elle passe d'une araignée à l'immortalité en quelques mots. Enfin, c'est magnifique, ouais.
Sans d'ailleurs parfois qu'on sache si elle parle de l'araignée ou de l'immortalité dans le poème.
Oui.
Vous avez parlé des poèmes, Camille Soulaine, en précisant que vous mettriez peut-être dans cette capsule temporelle des poèmes de Victor Hugo. Mais est-ce qu'il y a d'autres poétesses ou d'autres poètes qui ont compté pour vous dans votre parcours de lecteur ?
Oui, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, y en a vraiment beaucoup. Que de temps en temps, dans ma bibliothèque, j'ouvre... Un livre de poèmes, et comme on mangerait un petit bout de chocolat, je lis un poème. Voilà.
Et pour une raison particulière quand vous faites ça, ou c'est juste pour le plaisir ?
Non, pour le plaisir.
Juste pour le plaisir.
Oui. Je pourrais pas lire 20 minutes d'affilée de la poésie.
Ah ouais ?
Mais comme ça, là, je ne sais pas si... Si vous êtes...
Ah, moi, sans problème, pendant des heures. Avec plaisir, ouais.
Ah oui.
Et vous, Léa Quenin ?
Oui, je crois que je picore plus
Mais on peut picorer longtemps, non?
C'est vrai, on peut picorer longtemps.
Vous avez jamais eu un paquet de chips sur les genoux que vous avez picoré comme ça pendant des heures et des heures? C'est pas tout à fait pareil, la poésie, mais quand même. On va parler de vos deux premiers romans, Léa Quenin, Memory Palace, et Camille Soulaine, 106 jours, les carnets d'Alice Azevedo, juste après ce titre de FKA Twigs, Eusexua.
Describe, baby, this feeling deep inside. King size blinded to go sunrise. I'm flying, capsized.
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Si une intelligence artificielle était capable de compulser et d'archiver tous les savoirs humains sur l'amour, d'une part, quel serait-il et de quoi témoignerait-il exactement? Si elle était programmée, cette intelligence, pour conserver toute la mémoire des humains, en vue de la transmettre par-delà la catastrophe, sans conscience de nos fragilités, imperfections, contradictions et silenciations, que serait-elle en réalité capable de transmettre de nos vies? Si on avait décidé de choisir au hasard 21 enfants pour les sauver, là encore, de la catastrophe, que deviendraient-ils isolés de tout? Protégés certes, mais prisonniers de leur protection. Autant de questions que remuent vos deux premiers romans, Léa Quenin et Camille Soulaine, deux livres que nous mettons au programme du Book Club cet après-midi. Dans 106 jours, les carnets d'Alice Azevedo, parus aux éditions Tristram, vous imaginez Camille Soulaine, qu'une classe de CM2, débarque dans un abri anti-atomique pour les protéger donc d'un conflit mondial ultra-violent. Et parmi eux, une jeune enfant qui tient un journal. Et dans Memory Palace, paru aux éditions Rivage, vous imaginez Léa Quenin, une communauté, là aussi, mais cette fois-ci plutôt de femmes, d'adultes, installées dans une base spatiale, oubliées, et tout affairer cette communauté à un projet mémoriel avant l'effondrement imminent. Et il y a des oiseaux tout autour. Alors, comme c'est vos premiers romans, peut-être un petit mot là-dessus, quand même, et sur l'aventure que constitue le fait de se retrouver pour la première fois sur une table de librairie, sous pseudonyme pour vous, Camille Soulaine. Est-ce que vous voulez nous raconter comment ça s'est passé, l'écriture et peut-être la manière dont vous êtes entrée en contact avec la maison d'édition et qu'est-ce que ça vous fait de voir publier votre premier roman?
Mais à l'écriture, dans le courant d'une, je dirais pas que ça a duré une année parce que j'ai pas fait que ça évidemment, mais entre le début et la fin, une année s'est passée à peu près.
Entendu.
Et j'ai fait pas mal de choses en même temps évidemment et qui ont plus ou moins nourri l'écriture du roman.
Vous pensez à quoi, par exemple? Qu'est-ce que vous avez fait en même temps que vous écriviez ce premier roman?
J'ai fait pas mal de randonnées en montagne. J'habite dans les Pyrénées. Et Bon, je suis passionné de randonnée. Et puis, j'ai lu, j'ai bavardé avec des amis, etc.
Bon. La vie, quoi.
Oui, la vie.
Et alors après, une fois qu'il y avait, un point final à ce roman, qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il devienne un premier roman dans des librairies? Déjà, est-ce que c'était pour vous votre premier roman, au sens de l'écriture?
Oui.
Ouais.
J'ai écrit, par profession, je suis linguiste. Et la linguistique est une maîtresse très exigeante. Quand on s'y met, on ne peut pas faire autre chose. Enfin, quand on est passionné par ça, et quand on a des problèmes qu'il faut résoudre. Et voilà, donc... mais pendant à peu près une année, je me suis abstrait de la linguistique pour écrire ce roman.
Donc c'était la première fois?
Oui.
Et alors, une fois que vous avez terminé ce roman?
Eh bien, je l'ai envoyé à... Je ne sais pas pourquoi, quelqu'un m'avait parlé de... avait été publié chez Tristram. Je me suis dit, chercher un éditeur...
C'est pas facile.
C'est certainement pas facile. On dit que les éditeurs reçoivent des flots de manuscrits tous les ans et qu'ils ont... Bon, ils rejettent à peu près tout. Mmh. Et voilà, et j'ai... Pris contact par téléphone avec les éditions Tristram et je leur ai demandé si je pouvais leur envoyer en version électronique parce que je l'avais...
Tapé.
Je l'avais tapé, oui. J'en avais pas de version papier à l'époque. Et bon, ben, ils m'ont dit oui, vous me l'envoyez, on l'imprimera et puis on le lira. Enfin, je ne sais pas s'ils m'ont dit qu'ils l'imprimeraient. Je crois
qu'ils... Mais est-ce que vous mentionnez qui vous étiez dans cet envoi-là?
Non, absolument pas.
Et qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait de pouvoir écrire sous pseudonyme et puis de pouvoir... là, on entend votre voix. Bon, voilà, c'est tout. Et puis on dira pas grand... C'est vous qui avez dit que vous étiez linguiste, on aurait pu même s'en passer. Mais qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait de pouvoir écrire et puis, voilà, de ne pas dire davantage? Par ailleurs, vous avez choisi, ou il, ou vous avez choisi tous ensemble, Camille Soulaine, un pseudonyme qui peut laisser le doute sur le genre. Vous pourriez très bien être une femme, ou une personne non-genrée, ou quelqu'un de 15 ans, de 28 ans, de 17 ans, ce que vous n'êtes pas, puisque je vous regarde dans les yeux. Pas tout à fait, apparemment, en tout cas. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans?
Dans l'anonymat, vous voulez dire?
Ouais, l'anonymat.
Ah, je sais pas. Bah, le mystère, le fait... J'ai pas du tout envie du public, enfin je veux dire du contact avec d'une vie publique très publique.
Vous voulez pas être une star, quoi?
Eh ben...
Ben non.
Non.
Mais vous avez bien raison.
Voilà.
Et par ailleurs, est-ce qu'il y a quelque chose, on y viendra tout à l'heure, parce que vous faites une place très importante à l'enfance et vous faites une place très importante à la voix d'une enfant qui va entreprendre l'écriture d'un journal. Est-ce que l'espace qu'il y a entre, on va dire, ce que les gens ont pu deviner à l'oreille, c'est-à-dire vous êtes un homme et vous n'êtes plus du tout un enfant. Est-ce que l'espace qu'il y a entre l'homme que vous êtes aujourd'hui et la toute petite personne qui écrit ce journal-là est une jubilation supplémentaire?
Ben oui, sans doute, mais je voulais vous dire, la raison pour laquelle j'ai pensé à des enfants, finalement, c'est parce que, dans une vie antérieure, j'ai été instituteur et j'ai eu des classes primaires. Et la classe de CE, cours élémentaire, CE1, CE2, et ça me plaisait beaucoup. Après, j'ai fait autre chose, mais à un moment, j'ai pensé redevenir, parce que j'ai eu mes qualifications d'instituteur, j'ai pensé redevenir instituteur. Mmh. Et on m'a expliqué que c'était pas possible.
Donc il y aura peut-être une trace de ça dans la manière dont vous bâtissez justement cette fameuse classe de CM2 qui s'embarque, on va le dire tout à l'heure, dans un avion un petit peu particulier. Comment ça s'est passé pour vous, Léa Quénin, cette première aventure éditoriale ?
L'écriture est arrivée assez tardivement dans ma vie, vers 31 ans à peu près, et j'avais rien écrit avant, donc c'était très nouveau. J'ai rejoint le master de création littéraire de Paris 8, donc ça a été super parce que c'est-à-dire j'avais une vie professionnelle avant et que j'ai arrêtée, mais c'était un saut dans le vide un petit peu moins important pour moi. Enfin, c'est-à-dire j'avais ce filet de sécurité du master, on va dire, qui m'a beaucoup aidée dans l'écriture. Voilà, ça c'était pour l'écriture. Ça aide aussi pour l'édition puisque c'est comme ça que j'ai pu avoir des contacts pour soumettre mon livre à Rivage. Et Rivage, pour le coup, c'était vraiment ma maison d'édition de rêve.
Donc pour quelle raison vous souhaitiez atterrir chez Rivage ?
Oui, mon rêve. Eh bien, pour Céline Minard, voilà, qui a été une lecture très importante, qui a été la lecture qui a déclenché l'écriture. Donc, pour cette raison-là, c'était la maison d'édition qui me faisait vraiment rêver.
Parce qu'elle est publiée là-bas. On va écouter la voix de Nathalie, auditrice du Book Club. Elle vous a lu, Léa Quénin, et elle vous pose plusieurs questions sur votre texte.
Bonjour le Book Club, bonjour Léa Quénin. J'ai lu votre premier roman, Memory Palace, et quel roman! J'ai aimé me laisser surprendre et happer par ce roman d'anticipation, qui est au fond un véritable roman de voix. J'ai aimé que ces cinq femmes soient tiraillées, traversées par des tensions et des doutes, mais spécifiquement intéressées par Memory Palace, une intelligence artificielle observant et questionnant les choix humains. Et ça, c'est terriblement judicieux et intéressant. J'ai aussi beaucoup apprécié cette écriture précise, maîtrisée. Si Memory Palace devait être archivée par une intelligence artificielle du futur, qu'aimeriez-vous qu'elle retienne en priorité? Le message politique et écologique, les voix intimes des personnages ou les zones de doute et les silences que le texte laisse volontairement ouvertes? Merci pour votre réponse.
Merci à vous, Nathalie, pour cette question et pour cette lecture. Donc, je rappelle l'argument de votre roman, Léa Quénin. Donc, c'est cette communauté de femmes qui se retrouvent autour d'une ancienne base spatiale et qui entreprennent un grand projet mémoriel, on va dire, accompagné par une intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez répondre, du coup, à Nathalie en disant si on devait, comme ça, confier votre roman à une intelligence artificielle et lui demander de l'archiver, de le transmettre vers le futur? Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on retienne le plus?
C'est une super question. Je crois que ce que j'avais envie vraiment de... La question qui m'intéressait dans ce roman sur l'archivage, c'était de pousser le curseur, de se dire si on archivait tout, toutes les archives, est-ce que la somme de toutes ces archives serait, de l'humanité serait représentative de l'humanité? Et je crois que la réponse, en tout cas, enfin le point de vue est plutôt clair dans le livre. C'est d'ailleurs porté par un des personnages qui arrive et qui dérange un petit peu ce projet, Noé.
Et comme par hasard, qui n'est pas tout à fait adulte, Noé.
Qui n'est pas tout à fait adulte, tout à fait, qui est jeune adulte et qui, elle, ne se sent pas représentée par ses archives, justement. Étant issue d'une minorité, elle pense que les archives sont, représentent la majorité. En fait, et il y a des grosses zones d'ombre pour toutes les minorités dans les archives, parce que les archives ne sont pas conservées de la même manière, parce qu'elles
reproduisent aussi des logiques de domination qui sont à l'œuvre dans le présent et qui demeurent dans la manière dont on inscrit, on va dire, le passé ou le présent vers le futur.
Oui. Voilà. Donc c'était peut-être la question politique, on va dire. Mais c'est dur de choisir parce que
vous pouvez proposer d'autres choses à votre intelligence artificielle. Vous pouvez répondre à Nathalie en disant j'aimerais qu'on enregistre ça et puis autre chose.
Voilà, en plus, Memory Palace, elle ne choisit absolument
oui,
pas.
Voilà. Elle est totalitaire, d'une certaine manière.
Exactement, mmh. Elle est programmée pour tout conserver. Donc voilà, moi, je voudrais qu'on conserve tout.
tout, y compris la complexité de Memory Palace dans laquelle on va plonger dans un instant, parce qu'il y a à la fois tout ce projet technologique d'archiver la mémoire du monde et la mémoire humaine, mais ça se fait dans un environnement. Et la question de l'environnement est comment est-ce que ces femmes-là constituent, elles aussi, une communauté avec des lois dans cette communauté, des échanges, y compris des échanges avec le vivant, humain, non humain, à son importance. Il y a aussi une question de l'archivage dans votre roman, Camille Soulaine, puisque ces enfants qui sont emportés comme ça un matin dans un avion vers un abri, et bien parmi eux s'élève une voix et bientôt un journal.
Ce journal, au départ, c'était l'idée de Django. Un journal pour raconter ce qui nous arrive. C'était une bonne idée. Mais en fait, ce qu'il voulait, Django, c'était un journal pour tout le monde. Pour tous les 21. Au début, j'étais d'accord. Et quand Django a lancé l'idée, j'ai pas dit non. Et personne n'a dit non. Simplement, il y en a deux ou trois qui ont fait pfff. Ou qui avaient un petit sourire narquois. Django a dit que puisque tout le monde était d'accord, il faudrait que quelqu'un se dévoue pour le tenir, ce journal. Un peu tous les jours. Et il a demandé si quelqu'un était volontaire pour écrire quelque chose un peu tous les jours. Personne n'a répondu. Alors, il s'est tourné vers moi et il a dit « C'est toi, Alice, qui dois l'écrire, ce journal. Parce que t'es la meilleure élève de la classe de français. » Et là, tout le monde a été d'accord, même si plusieurs ont rien dit. Mais moi, j'ai dit que j'étais pas d'accord. Je voulais pas l'écrire. C'est trop de responsabilité. Et là, personne n'a plus rien dit. Alors finalement, personne ne va le tenir, ce journal, pour tout le monde. C'est un peu dommage pour Django. Mais moi, sans rien dire à personne, j'ai décidé d'en tenir un de journal. Mais un journal rien que pour moi. Je vais le planquer soigneusement et le montrer à personne. Sauf peut-être à un ou deux. Donc voilà, c'est ce que j'écris. Il faudra que je mette la date tous les jours en commençant. Aujourd'hui, je ne l'ai pas fait, donc je rattrape ça. On est le samedi 8 février 2048. On est parti d'Orly le mardi 4 février, donc il y a 4 jours. Voilà pour la date. Le lieu, d'après ce qui nous a été dit dans l'avion, et d'après ce qu'on voit affiché partout, même sur les assiettes, l'abri souterrain, où on s'appelle le Vialard. Pour l'instant, je ne vais pas expliquer exactement ce que c'est le Vialard. Je l'expliquerai plus tard. Il est 22h21. Je commence à avoir sommeil. J'arrête pour ce soir, je continuerai demain. Je vais me coucher.
C'est le début, un montage dans le début de votre texte, Camille Soulaine. Comment vous êtes arrivée à la forme du journal de cette petite fille et à la voix de cette petite fille ?
Les choses se sont faites toutes seules, si je puis dire. À partir du moment où j'avais décidé que c'était vu par des enfants, et que ces enfants étaient enfermés dans un abri anti-atomique, il était commode que quelqu'un tiennent un journal de ce qui leur arrivait. Voilà.
Et pourquoi c'est important pour vous que ce soit des enfants ? Parce que finalement, ces 21-là, ils vont vivre une expérience que vivent rarement les enfants, c'est-à-dire de pouvoir vivre entre enfants.
Oui, mais parce que, justement, les enfants ont une certaine objectivité, si je puis dire, et ils voient des choses que les adultes ne voient pas. Me semble-t-il.
Comme quoi, par exemple ? Qu'est-ce qu'ils comprennent, les enfants de votre communauté dans cet abri atomique ? Qu'est-ce qu'ils comprennent petit à petit de la situation ?
Eh bien, ils comprennent qu'on les a envoyés là, en quelque sorte, pour soi-disant les sauver, mais que ce n'était pas un cadeau qu'on leur faisait. Et donc, ils essaient de se débrouiller avec ça.
Pourquoi ce n'était pas un cadeau ?
Parce qu'ils sont enfermés et finalement, pas beaucoup de perspectives d'en sortir. Ils savent pas comment, ils voient pas comment en sortir. Ils voient surtout qu'ils sont enfermés, qu'ils voient pas la lumière du jour, s'ils veulent savoir si on est le jour, si on est la nuit, il faut qu'ils regardent les pendules qu'il y a. Enfin bon, c'est un monde qui est très difficile pour eux.
Ce monde-là, donc on entend, on est en 2048, il était même difficile avant qu'il ne soit envoyé dans cet abri atomique, puisqu'à un moment donné, on réalise que ces enfants sont pucés, que la surveillance politique, la manière dont ce monde s'organise, était déjà un monde, on va dire, de coercition, Camille Soulaine.
Oui, eh bien, écoutez, je vous citerai un graffiti que j'ai vu sur un mur de l'Université de Londres autour de l'année 2000. Orwell was an optimist. George Orwell était un optimiste. Et ce que Orwell avait prédit, on le voit de plus en plus, on le voit arriver. Quoi. Enfin, heureusement, il y a des gens qui en sont conscients et qui vont tout faire pour que ça n'arrive pas, justement.
Il y a un moment donné, d'ailleurs, dans votre roman, où les enfants découvrent qu'il est possible de trouver des livres à lire et qu'il y a justement 1984 de George Orwell qu'ils peuvent découvrir. Pour vous, la littérature, c'est un endroit quoi d'alerte, d'acuité, de possibilité de regarder mieux justement la situation politique qu'on traverse ?
Oui, parce que à condition qu'elle ne soit pas trop bridée, et c'est dans le roman, c'est un livre, 1984 est un livre interdit, il se trouve que dans cette bibliothèque-là, où ils sont, et dans cette médiathèque, le livre existe, mais autrement, tous les habitants, du pays, et peut-être de la planète, n'ont pas accès à ça.
Vous parlez de cette communauté d'enfants, quand ils vont réussir, on ne va pas en dire trop, mais peut-être à sortir de cet endroit d'abri atomique et de nouveau renouer contact avec des adultes. Finalement, ce que leur réservent les adultes en dehors de l'abri n'est pas très reluisant non plus, Camille Soulaine.
Oui, exact.
Vous êtes un peu moins optimiste que George Orwell ?
Non. George Orwell était, je crois, pessimiste. Le graffiti dont j'ai parlé, c'est une plaisanterie, bien sûr. Mais je ne sais pas, c'est difficile. Moi, je suis un grand admirateur d'Orwell. J'ai lu sa biographie, j'ai lu ses écrits. Et il faut absolument que tout le monde le connaisse.
C'est une invitation à ça, en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est que ce faisant, vous produisez, et c'est quelque chose qui est de plus en plus au devant d'un discours public. Vous produisez une réflexion sur le lien entre les adultes et les enfants et la domination qui existe dans votre texte, en tout cas, entre les adultes et les enfants. Vous nuancez l'idée de la protection, vous dites que c'est bien plus compliqué que ça et que les adultes et le monde des adultes menacent plutôt l'enfance. Est-ce que c'est ça qu'on doit retenir des 106 jours ?
À mon avis, s'il y a une leçon entre guillemets, ça serait que le salut nous viendra des enfants. Parce que finalement, ils auront beaucoup de bon sens et et beaucoup de mesures. Au départ, ils sont pas totalitaires.
Au départ, ouais. Parce que vous montrez aussi dans cette communauté que se reproduisent des problématiques qui existent dans le monde des adultes, malheureusement.
Oui, c'est vrai.
Oui. On va écouter un extrait de film à la fin de Blade Runner de Ridley Scott, un monologue que vous citez, Léa Quenin. C'est donc un réplicant qui donne ses derniers mots devant Harrison Ford.
I've seen things you people wouldn't believe. De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion. J'ai vu des rayons fabuleux, des rayons C, briller dans l'ombre de la porte de Tannhauser. Tous ces moments se perdront dans l'oubli. Comme les larmes dans la pluie. Il est temps de mourir.
Votre livre s'appelle « Memory Palace, Léa Quenin » et il s'ouvre sur une citation de ce monologue de Blade Runner. Ce « memory » qui donc directement place la mémoire au cœur de votre roman. Ici, le personnage du réplicant semant le trouble sur la conscience qu'il a de l'importance de la mémoire et des instants traversés. Pourquoi est-ce qu'il ouvre, pourquoi ce monologue ouvre votre roman et qu'est-ce que ça nous dit de ce que vous dépliez ensuite ?
Alors déjà, j'ai revu Blade Runner il y a quelques jours, et dans Blade Runner, les réplicants, donc les androïdes ou les IA, n'ont pas forcément conscience de ne pas être des humains, et ça, c'est grâce aux souvenirs qui leur ont été implantés.
Donc ils pensent
être des humains parce qu'on leur
a... Ils frayent avec l'humanité parce qu'ils disposent de mémoire.
Parce qu'ils ont, voilà.
Donc ça fait de la mémoire le caractère quasi ontologique.
Oui.
De l'humanité.
Tout à fait. Et j'ai oublié de votre question. Pardon.
Bah non, mais pourquoi c'est important pour vous de placer ce monologue en début de roman et qu'est-ce que ça nous raconte sur ce que vous traitez ensuite dans Memory Palace ?
Parce qu'il est question de cette mémoire et de cette conservation de la mémoire. Et en l'occurrence, dans ce monologue, le réplicant, il a conscience que toute sa mémoire va disparaître en même temps que lui va mourir. Là, il est sur le point de... de mourir, c'est un monologue très mélancolique à ce moment-là. Et donc avec sa disparition, disparaît toute sa mémoire et la mémoire de ses semblables. Et donc c'est un peu pour contrecarrer ça que dans Memory Palace, je voulais encapsuler l'intégralité de la mémoire de l'humanité. C'était dans un objectif de... qui n'était pas un objectif de, voilà, et l'envoyer dans l'espace, pas un objectif de conquête spatiale et tout ça, mais vraiment de transmission à un moment d'effondrement où on s'occupe assez peu de notre propre survie, mais plus de la transmission de la mémoire. Après, il y a différents niveaux de mémoire dans Memory Palace. Il y a en effet ces 10 capsules qui contiennent les archives de l'humanité, mais qui sont un petit peu des archives froides, finalement. Et il y a un moment, cette 11e capsule pirate, on va dire, qui contient là beaucoup plus...
Initiée par
Noé, donc celle dont on parlait tout à l'heure, la jeune adulte hackeuse, qui, elle... va plutôt s'intéresser à la conservation de la vie, finalement.
Peut-être qu'elle a justement l'intuition de cette 11e capsule et de l'extrême nécessité de cette mémoire plus organique, plus essentielle, parce qu'il lui manque à elle une mémoire essentielle, c'est la mémoire de sa mère. Mm-hmm. Sa mère, elle est morte dans la première mission spatiale et il y a l'une des femmes de la communauté qui est en mesure de lui dire qui elle était et elle va réclamer la mémoire. Il y a vraiment aussi quelque chose qui dit combien... on va dire le mouvement vers l'avant ou la vie en général est comme rendu impossible s'il manque ce bout-là, quoi, quasi organique en fait. La mémoire, ça devient un organe en fait.
Oui, mais je pense que quand on n'a pas accès à notre histoire, c'est compliqué. En tant que personne queer, par exemple, il y a tout un tas d'archives qui n'existe pas, qui n'existe plus. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chercheurs, chercheuses qui font ce travail. d'aller rechercher des archives. Parfois, c'est même des archives de l'intime.
Bien
des
sûr.
Des photographies. Mmh. Et c'est important d'avoir cette, cette filiation, cette transmission, connaître son histoire, en fait.
C'était au cœur d'un très, très beau récent livre d'Hélène Giannichini qui pose exactement cette question-là. je le disais, la communauté de femmes qui se réunit autour de ce projet mémoriel et qui discute aussi et qui échange avec cette intelligence artificielle, elles le font dans un environnement. Peut-être, est-ce que vous le décrivez, cet environnement, pour nous, avant qu'on écoute un extrait de votre texte ?
Mm-hmm. C'est une base, une ancienne base spatiale oubliée, qui est restée à l'abandon pendant 15 ans, mais qui est toujours en parfait état de fonctionnement. Et elle se situe, donc c'est un petit peu particulier, elle se situe au bord d'une falaise, au bord de la Baltique, mais en Silésie. Donc, pour voir un petit peu la géographie de la Pologne, il y a la mer Baltique au nord et la Silésie est tout au sud. Donc, la Baltique est montée et a recouvert les trois quarts de la Pologne. Suite à de grandes inondations. Et donc, cette falaise est posée, cette base est posée au bord de cette falaise, dans une nature qui est extrêmement vivante, donc il y a à la fois qui grouille d'insectes, d'oiseaux, de goélands, mais aussi qui grouille dans sa géologie. La terre bouge, la terre s'effrite et s'ouvre.
Et elle est très spongieuse, elle est décrite, cette terre-là, et il y a, dans certaines pages de votre roman, une quasi-indistinction entre ce vivant-là, qui serait la terre, la géologie, les animaux, on va y venir, et les autres vivantes, qui seraient ces femmes affairées avec l'intelligence artificielle à encapsuler la mémoire. Il y a certains moments où on sent que vous brouillez sensément les pistes entre les différents vivants. On va écouter un extrait de votre roman où les L, E2LES, pourraient à la fois désigner ces femmes humaines réunies dans ce projet et les goélands qui sont genrés au féminin.
Ce sont de belles parleuses. Memory Palace ne croit pas qu'elles chantent. Elles jacassent, jappent, gémissent, interjettent, se taquinent, se chicanent, ricanent, raillent et célèbrent tout. La naissance d'un poisson, la pousse d'une herbe, la tendresse d'une brindille. Elles pleurent. Si elles repèrent un rapace, elles joignent leur cri. Chaque cri est comme une extension de leur corps. Un membre à part entière qui les relie entre elles et qu'elles projettent en l'air ensemble. Elles ne se posent pas la question. Si l'une donne l'alerte, les autres suivent d'un même accord. Elles ne sont pas discrètes, peuvent être pénibles. Elles disent ce qu'elles pensent, elles ne mentent pas, mais elles savent plaisanter. Pallas sait maintenant reconnaître la clameur d'un bonjour, l'éclat d'une moquerie, et depuis peu, la plainte d'une douleur. Les goélands sont réunis en cercle au sol. L'air entre leurs corps ne passe plus. La gangue, parfaitement silencieuse et calme, s'écarte, dégageant en son centre une grande blessée, la plus imposante, au large cou et à l'aile cassée. La goéland a fermé les yeux pendant la durée des soins. Elle les rouvre lentement et fixe Rutli, tandis qu'elle termine le bandage. La gangue autour s'est tenue à l'écart, feignant l'indifférence. Mais toutes ont observé les opérations en émettant des piaulements brefs à tour de rôle et à intervalles réguliers. Rutli était une balise dans leur radar. Tout était sous contrôle. Le lendemain, 5 sardines minuscules et encore frétillantes les attendent devant l'entrée de la base.
Un extrait de votre texte Memory Palace, Léa Quénin. Comment décrire ce qui se passe entre cette gangue de goélandes et la communauté des femmes ?
Et c'est vrai que je suis assez contente que vous les rapprochiez parce que je les ai un petit peu construites comme ça, à la fois en miroir, en
puis
opposition.
Là, on entend même, j'entendais, je sais pas, le cercle réuni autour d'une grande blessée, il va y avoir une malade aussi dans le cercle des humaines. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui est un aller-retour qui est ouais, très beau.
Oui, 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 elles ont beaucoup de points communs. Mais elles ont aussi beaucoup de différences. Enfin, c'est-à-dire, déjà, les goélands étaient là, elles étaient là avant. Elles seront là après, et ça, c'est une certitude. Voilà. Les humaines ne sont que de passage dans cet endroit. Et elles ont aussi beaucoup de différences. À un moment dans le texte, il y a une goéland qui dit... enfin, elle parle pas, mais en l'occurrence, c'est après avoir un petit peu trop bu, un des personnages a une discussion avec une des goélands. La goéland dit qu'elles sont très différentes des humaines, que contrairement aux humaines, la goéland ne préfère pas la destruction du monde à une égratignure de son aile, quoi. Donc elle marque aussi une espèce de distance entre elles. Mais les humaines, quand même, qui sont là, ces personnages, s'inspirent beaucoup de l'attitude des goélands pour s'adapter à cet endroit. Il y a par exemple, elles apprennent à marcher au bord d'une falaise en observant les goélands, leur manière à elles de marcher au bord d'une falaise et de résister au vent. Et c'est comme ça, donc il y a un enseignement qui est fait, qui va d'ailleurs plutôt dans le sens des goélands vers les humaines.
Ouais. Et on entendait là aussi la notion de soin, et puis à la fin, peut-être d'offrande, peut-être que les sardines, c'est aussi quelque chose qui va venir en circulation entre les deux espèces. Camille Soulaine, vous imaginez un monde qui est non seulement très violent, agité par une guerre plus violente que toutes les guerres qui n'ont jamais eu lieu sur la planète, mais de surcroît, il y a une menace sur le vivant qui pèse très fort dans ce monde que vous peignez en 2048. Est-ce que vous voulez en dire un mot?
Eh bien, il y a quand même de l'espoir, parce que les enfants, quand ils sortent, enfin les cinq qui sortent de l'abri et qui circulent dans le monde qui a survécu à la catastrophe nucléaire, et ils croisent des humains qui ont survécu à cette catastrophe aussi, eh bien, ces humains, ils sont... Il y a plusieurs groupes d'humains. Certains sont restés comme avant. Ils refusent en quelque sorte toute évolution. C'est ceux qui se sont groupés, ceux qui appartiennent à une secte. Hein. Là, j'égratigne un peu les sectes. La question de la religion est la religion n'est pas égratignée, je pense. Et elle sous-tend le roman.
La croyance, en tout cas, ouais.
Ce qui était égratigné, ce sont les dérives sectaires et les superstitions. Encore, enfin, les superstitions d'une manière.
Mais alors, où est l'espoir? Puisque vous dites qu'il y a de l'espoir au moment où ces enfants réussissent à sortir.
Eh bien, c'est des humains qui arrivent à s'organiser, arrivent à rejeter tout ce qu'il y a eu de mauvais, en quelque sorte, dans les sociétés passées, et qui arrivent à cultiver, etc. Bon, je vais pas raconter la fin. Voilà, il y a quand même de l'espoir.
Pour ce qui est de peut-être une note d'espoir, Léa et Aquenoin, vous poussez le futur très 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 loin, et il est plutôt du côté de l'hybridation s'il y a de l'espoir pour vous dans ce roman.
Oui, pas que, parce que parfois on a pu qualifier ce texte de dystopique, et je suis pas tout à fait d'accord, parce que certes il y a la montée des eaux, on parle de d'effondrement. On est d'accord, ça craint, mais il y a quand même, et c'est précisé, on est au moment de la chute des gouvernements d'extrême droite, et il y a avant même ce tout dernier chapitre, qui est des millions d'années après le lancement, il y a quand même une forme d'espoir d'un certain renouveau. En tout cas, c'est ce que je voulais, c'est comme ça que je voulais l'écrire. Aussi parce que je pense que on peut aussi voir la période actuelle de manière très pessimiste. On peut aussi voir des formes d'espoir dans ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, dans les Epstein Files, dans je sais pas, le procès Le Pen, voilà, quelque chose qui est en train de craquer et qui est sur le point d'exploser.
Et de cette situation critique, vous décidez de faire non pas une lecture, pour le coup on va reprendre ces mots-là, de pessimiste et optimiste, mais puisqu'il y a crise, au sens peut-être fertile du terme, alors il y a horizon, quoi. Il y a quelque chose, puisque vous parliez tout à l'heure d'une ère où les choses bouillonnent, ce serait de cet ordre-là la crise.
Oui. Et juste pour revenir sur l'hybridation, parce que j'aime beaucoup la manière dont vous avez lu le dernier chapitre, et je suis assez d'accord avec ça. En effet, pour moi, le cet être à la fin, j'ai pas non plus envie de trop en dire.
Non, mais vous avez vu, j'ai été...
oui. Et en effet, dans une forme de d'hybridation. Pour moi, on n'est pas si loin, en fait, de la Terre. Dans le tout dernier chapitre, on est peut-être même revenu...
Peut-être que même on est dessus.
Ouais. On est peut-être dessus. Et il y a cet être, en effet, qui est une forme hybride de plusieurs formes de vie, et par rapport aux archives, l'espoir, il est là-dedans aussi. C'est que les archives, il y a toute une partie des archives qui sont totalement inopérantes, et il y a une capsule
qui fonctionne,
qui est la vie.
Le book club continue, on indique simplement que se tiendra du 31 janvier au 15 février le festival de science-fiction Les Mycéliades dans plusieurs cinémas et médiathèques d'Île-de-France. On mettra l'information sur franceculture.fr.
France Culture, le book club, Marie Richeux.
Peut-être dans toute la France. On joue au grand jeu des pages musicales à chercher de la musique dans les livres, et il y en a dans Memory Palace. Écoutez, même une intelligence artificielle peut se faire le petit kiff, le petit rituel d'écouter une chanson. Peu de temps après, la nuit tombe sur le plateau et une musique résonne dans toute la base. Quelques notes de piano, les craquements d'un son ancien et une voix qui entame. La chanson se poursuit sans que personne dans la base puisse en identifier l'origine. La surprise vient de Memory Palace, dont la voix couvre les derniers couplets. Tu entends ça, Kay? Tu entends? Je décide librement de mes actions. J'ai choisi d'écouter une chanson. Je peux faire ce rituel, tout comme décider de ne pas le faire. Now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Premier roman était au programme de votre book club aujourd'hui. Léa Quénin, merci beaucoup d'être venue parler de Memory Palace, publié aux éditions Rivage. Camille Soulaine, merci beaucoup d'être venue parler de 106 jours, les carnets d'Alice Azevedo, paru aux éditions Tristram. Au son aujourd'hui, c'était Marie-Claire Oumabadi. À la réalisation, Vivien Demeyer. Un très grand merci à toute l'équipe du book club qui pense et prépare les émissions avec moi, particulièrement aujourd'hui à Léa Weissgruss. Vous pouvez poursuivre la conversation sur le compte compte Instagram du Book Club, animé par Alexandra Leibegovic. Without a dream in my heart, without a love of mine.